Pour tous les amoureux du jazz, Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Il y a quelque chose de pathétique et de paradoxal dans la vie et l'œuvre de Miles Davis. Alors qu'il a dominé le monde du jazz pendant près d'un demi-siècle, sa musique a d'abord été l'expression d'une profonde tristesse. Miles Davis et John Coltrane, le choc des titans. Dis-moi, Train, pourquoi tu fais des solos aussi longs ? Je n'en sais rien moi-même, je n'arrive pas à m'arrêter. Eh bien, voilà ce que tu vas faire. Tu retires le bec du saxophone de ta bouche. Miles Davis et John Coltrane avaient une approche radicalement différente de la musique. Miles et Train ensemble. Déjà, c'est le couple de rêve, un des couples les plus mythiques du jazz moderne. Débutant en septembre 1955 et enregistré pour la première fois en mai 1956, cette formation ne se résume d'ailleurs pas qu'au mythique duo. Il s'agit en fait du plus grand groupe assemblé par ce génial directeur qu'était Miles, regroupant Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams quelques années plus tard. En quintette ou en sextette, le groupe comptait le phénoménal Philly Joe Jones à la batterie, Paul Chambers à la basse, Red Garland au piano et Cannonball Adderley au sax alto, dans la formation à 6, accompagnée de 2 maîtres à la trompette et au sax ténor. D'ailleurs, Coltrane, à l'époque, n'était pas encore un maître. Tout le génie de Miles résidait précisément dans ses talents de découvreur. Alors que le saxophoniste était encore un outsider, loin derrière Adderley ou Sonny Rollins, Miles Davis, en l'embauchant, réalisa immédiatement à quel point Coltrane était capable de faire des pas de géant, jusqu'à devenir l'un des 2 ou 3 plus grands saxophonistes de l'histoire du jazz. C'est le sentiment de Nicolas Ungemont qui nous entraîne dans cette histoire. Ce luxueux coffret, 6 CD, dont 90 minutes de musique inédite, regroupant toutes les séances pour Columbia, donc les albums quintessentiels Round About Midnight, Milestones, Kind of Blue et les prises éparses tiré de différentes collaborations ainsi que deux lives, est donc le panorama quasi ultime, avec également les excellents albums enregistrés pour Prestige, soit la série des Walking, Steaming, Relaxing. Dialogue étonnant de deux personnalités très différentes. Miles, maître de l'économie et du silence, et Coltrane, exubérant, exalté, à la musicalité quasi mystique. La collaboration dura entre 1955 et 1961, avec quelques variantes. Jimmy Cobb à la batterie, Bill Evans au piano, avant que Coltrane ne parte voler de ses propres ailes de géant, disparaissant tragiquement 6 ans plus tard, à l'âge de 42 ans. Miles, qui n'appréciait pas sa musique, ne se déplaçait néanmoins jamais sans une photo du saxophoniste sur lui, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Coltrane, le voici, avec Naïma, enregistré au Festival d'Antibes-Jean-Lépin le 26 juillet 1965. Autour du sax ténor de John, il y avait ce soir-là, dans la pinède, le piano de McCoy Tyner, la basse de Jimmy Garrison et les drums d'Elvin Jones. Nous présente Kind of Blue. C'est l'album de jazz qui s'est le plus vendu. Et pour une fois, le public ne s'est pas fait berner. Miles Davis y est maître de ce qui fut l'une des plus fascinantes formations. John Coltrane, mystique et exalté au saxophone ténor. Julian Cannonball Adderley, blues et viril à l'alto. Paul Chambers, en bassiste sinueux, et au piano le génie impressionniste Bill Evans. Ces hommes enregistrèrent donc à la fin des années 50 un chef-d'œuvre de modernité, un disque à la cohérence rare, élégant, racé et subtil, Kind of Blue incarne parfaitement les obsessions de Miles Davis. L'horreur du bavardage et du trémolo. Ses traits sont d'une rectitude absolue et son adhésion à l'adage anglais « less is more », moins c'est plus, total. En 5 titres, le jazz absorbait une nouvelle révolution, modale cette fois. On connaît la suite. Coltrane et Evans partent envolés de leurs propres ailes et Miles, devant attendre l'arrivée de Wayne Shorter, Herbie Hancock et Ron Carter pour retrouver la dynamique de groupe qu'il a toujours souhaité. Derrière ces aspects tyranniques, l'homme appréciait surtout les synergies. Kind of Blue, réédite en version luxueuse, une prise et des photos inédites, des plages interactives, à l'occasion du 40e anniversaire de sa sortie, en est la preuve éclatante. C'est en tout cas l'une de ses œuvres majeures. Thank you. autres CV, bien sûr, valent le détour. Jacques Doucelin et Bertrand Dical présentaient les disques de la semaine dans le Figaro du jeudi 31 mai 2001. Miles Davis, The Essential. Que reste-t-il de Miles une fois qu'on a tout écouté ? Une impression d'ensemble, le génie, le son, le charme, la classe, tout ça. Et une géographie forcément intime de petites pierres blanches et de menhirs vertigineux. Alors on sourit, forcément, quand après que les maisons de disques se sont obstinées ces dernières années à publier inédits, coffrets, surprises et souvenirs en tout genre de Miles, on voit paraître un double CD qui se proclame l'essentiel, en affirmant sur un sticker rose 40 années de carrière, 7 labels réunis. Dans son strict déroulement chronologique, des sessions avec Bird et Deez en 1945 jusqu'à Tutu, l'entreprise paraît vaine. Mais on y trouve finalement des pertinences. So what ? Sur Kind of Blue en 1959, suivi de The Pan Piper, le gros orchestre de 1960 dirigé par Gil Evans, pour Sketch of Spain, dont je vous reparlerai. C'est habile. Bien sûr, on préférera offrir des œuvres cohérentes à son neveu ou garder dans sa voiture pour les longs trajets d'autoroute un bon coffret de secours. Mais s'il faut vraiment acheter une compilation de Miles, s'il le faut vraiment, celle-ci est loin, très loin d'être indigne. Paraissent aussi deux rééditions d'albums, Round About Midnight, que nous venons d'entendre d'ailleurs, avec 4 bonus tracks, et Milestones, avec 3 bonus tracks. Youpi! Et puis une compilation bien ciblée, The Best of Miles Davis John Coltrane. Surtout, voici pour la première fois en CD indépendant. Et aussi Miles Davis à Newport en 1958 avec l'historique sextet Miles, Cannonball, Coltrane, Evans, Chambers, Cobb, inclus l'an dernier dans le coffret Miles Coltrane. Ce concert enregistré en juillet 1958, 8 mois avant les sessions de Kind of Blue, montre un groupe à la dynamique surprenante, à la palette brillamment colorée, tout à l'élaboration d'un langage neuf. Ce dernier apparaît dans une splendeur plus fervente encore avec Jazz at the Plaza, concert de septembre 1958, lui aussi inclus dans le coffret Suscité. Tout cela est splendide. Malgré qu'on risque de se lasser des emballages, réemballages, compilations, recompilations de l'œuvre de Miles Davis, et Sony Music nous promet, pour le 10e anniversaire de sa mort, en septembre, nous étions, je le rappelle, en 2001, une nouvelle série de rééditions. Peut-être l'année prochaine verra-t-on naître des projets marketing tout neufs. Un coffret des titres enregistrés le vendredi ou un jour de pluie, les sessions pendant lesquelles Miles portait cravate, tous les thèmes dont le titre commence par une voyelle, etc. À Milan, en décembre 1963, au milieu de la nébia cotonneuse presque étouffante qui recouvrait alors la ville comme le fog à Londres, que j'ai entendu pour la première fois Miles Davis. Les amis chez qui je résidais avaient tous ces disques, des vinyles à l'époque, dont le fameux Sketches of Spain, dans lequel Saeta, composé par Evans, avec la trompette claironnante de Miles. Ils m'ont fait entendre cette musique en me disant qu'en Espagne, pendant les processions de la Semaine Sainte, de brefs morceaux, des saetas, surgissaient de la foule, tels des flèches, jouées à la trompette pour accompagner les pénitents pieds nus qui portaient l'immense croix. Je crois que c'est pour cette raison que depuis, à chaque fois que j'entends Miles Davis, j'ai soudain un parfum d'Espagne qui m'étreint. Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro enregistré par Émilie Glory pour vous dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.